Chapitre 8. Le roi est si bon, la reine est si bonne, les trois pouvoirs de la France. Maintenant que nos lecteurs nous permettent de les mettre au courant des principaux événements politiques qui s'est passé depuis l'époque où, dans notre dernière publication, nous avons abandonné la cour de France. Ceux qui connaissent l'histoire de cette époque ou ceux que l'histoire pure et simple effraiera peuvent passer ce chapitre, le chapitre suivant s'emboîtant juste avec celui qui précède et celui que nous hasardons ici n'étant qu'à l'usage des esprits exigeants qui veulent se rendre compte de tout. Depuis un an ou deux, quelque chose d'inouï, d'inconnu, quelque chose venant du passé et allant vers l'avenir, grondait dans l'air. C'était la Révolution. Voltaire s'était soulevé un instant dans son agonie, et accoudé sur son lit de mort, il avait vu luire jusque dans la nuit où il s'endormait cette fulgurante aurore. C'est que la Révolution, comme le Christ dont elle était la pensée, devait juger les vivants et les morts. Lorsque Anne d'Autriche arriva à la régence, dit le cardinal de Retz, il n'y eut qu'un mot dans toutes les bouches, « La reine est si bonne !» Un jour, le médecin de Madame de Pompadour, quénois, qui logeait chez elle, voit entrer Louis XV. Un sentiment, en dehors du respect, le trouble à ce point qu'il tremble et pâlit. « Qu'avez-vous ? » lui demande Madame de Haussay. « J'ai, » répond quénois, « qu'à chaque fois que je vois le roi, je me dis... « Voilà cependant un homme qui peut me faire couper la tête. »« Oh, il n'y a pas de danger, » répond Madame de Haussay, « le roi est si bon. » C'est avec ces deux phrases, « le roi est si bon, la reine est si bonne » qu'on a fait la Révolution française. Quand Louis XV mourut, la France respira. On était débarrassé, en même temps que du roi, des Pompadour, des Dubarry, du parc aux cerfs. Les plaisirs, Louis XV, coûtaient cher à la nation, ils coûtaient seuls plus de 3 millions par an. Heureusement, on avait un roi jeune, moral, philanthrope, presque philosophe, un roi qui, comme l'Émile de Jean-Jacques, avait appris un état, ou plutôt 3 états. Il était serrurier, horloger, mécanicien. Aussi effrayé de l'abîme sur lequel il se penche, le roi commence-t-il par refuser toutes les faveurs qu'on lui demande. Les courtisans frémissent. Heureusement, une chose les rassure, c'est que ce n'est pas lui qui refuse, c'est Turgot. C'est que la reine n'est peut-être pas reine encore et par conséquent ne peut avoir ce soir l'influence qu'elle aura demain. Enfin, vers 1777, elle acquiert cette influence tant attendue. La reine devient mère. Le roi, qui était déjà si bon roi, si bon époux, va pouvoir être bon père. Comment rien refuser maintenant à celle qui a donné un héritier à la couronne? Et puis, ce n'est pas tout. Le roi est encore bon frère. On connaît l'anecdote de Beaumarchais sacrifié au comte de Provence. Et encore, le roi n'aime-t-il pas le comte de Provence, qui est un pédant? Mais en revanche, il aime fort monsieur le comte d'Artois, ce type d'esprit, d'élégance et de noblesse française. Il l'aime tant que s'il refuse parfois à la reine ce que la reine demande, le comte d'Artois n'a qu'à se joindre à la reine et le roi n'a plus la force de refuser. Aussi est-ce le règne des hommes aimables, monsieur de Calonne, un des hommes les plus aimables du monde et contrôleur général. C'est lui qui dit à la reine « Madame, si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, cela se fera. » À partir du jour où cette charmante réponse circule dans les salons de Paris et de Versailles, le livre rouge que l'on croyait fermé s'est rouvert. La reine achète Saint-Cloud, le roi achète Rambouillet. Ce n'est plus le roi qui a des favorites, c'est la reine. Mesdames Diane et Jules de Polignac coûtent aussi cher à la France que la Pompadour et la Dubarry. La reine est si bonne. On propose une économie sur les gros traitements. Quelques-uns en prennent leur parti, mais un familier du château refuse obstinément de se laisser réduire. C'est monsieur de Coigny. Il rencontre le roi dans un corridor, lui fait une scène entre deux portes, le roi se sauve et dit en riant le soir, « En vérité, je crois que si je n'eusse cédé, Coigny m'eût battu. Le roi est si bon. » Et puis les destinées d'un royaume tiennent parfois à bien peu de choses, à l'éperon d'un page, par exemple. Louis XV meurt, qui succédera à monsieur d'Aiguillon. Le roi Louis XVI est pour Machaut. Machaut, c'est un des ministres qui ont soutenu le trône déjà chancelant. Mesdames, c'est-à-dire les tantes du roi, sont pour monsieur de Maurepas, qui est si amusant et qui fait de si jolies chansons. Il en a fait à Pontchartrain trois volumes qu'il appelle ses mémoires. Tout ceci est une affaire de steeplechase. Qui arrivera le premier, du roi et de la reine à Arnouville ou de mesdames à Pontchartrain? Le roi a le pouvoir entre ses mains. Les chances sont donc pour lui. Il se hâte d'écrire. Partez à l'instant même pour Paris. Je vous attends. Il glisse la dépêche dans une enveloppe et sur l'enveloppe il écrit Monsieur le comte de Machault à Arnouville. Un page de la grande écurie est appelé, on lui remet le pli royal, on lui ordonne de partir à franc-étrier. Maintenant que le page est parti, le roi peut recevoir mesdames. Mesdames, les mêmes que leur père appelait, comme l'a vu dans Balsamo, Locke, Chiffe et Graille, trois noms éminemment aristocratiques, mesdames attendent à la porte opposée à celle par laquelle le page sort, que le page soit sorti. Une fois le page sorti, mesdames peuvent entrer. Elles entrent, supplient le roi en faveur de monsieur de Maurepas. Tout cela est une question de temps. Le roi ne peut pas refuser, mesdames. Le roi est si bon. Il n'accordera que quand le page sera assez loin pour qu'on ne le rattrape pas, le page. Il lutte contre mesdames, les yeux sur la pendule. Une demi-heure lui suffit. La pendule ne le trompera point. C'est la pendule qu'il règle lui-même. Au bout de 20 minutes, il cède. Ah, qu'on rattrape le page, dit-il, et tout sera dit. Mesdames s'élancent, on montera à cheval, on crèvera un cheval, 2 chevaux, 10 chevaux, mais on rattrapera le page. C'est inutile, et l'on ne crèvera rien du tout. En descendant, le page a accroché une marche et cassé son éperon, le moyen d'aller ventre à terre avec un seul éperon. D'ailleurs, le chevalier d'Abzac est le chef de la grande écurie, et il ne laisserait pas monter un courrier à cheval, lui qui passe l'inspection des courriers, si ce courrier devait partir d'une manière qui ne fît pas honneur à l'écurie royale. Le page ne partira donc qu'avec les 2 éperons. Il en résulte qu'au lieu de rattraper le page sur la route d'Arnonville, courant à franc-étrier, on le rattrapera dans la cour du château. Il était en selle et prêt à partir dans une tenue irréprochable. On lui prend le pli, on laisse le texte qui était aussi bon pour l'un que pour l'autre. Seulement, au lieu d'écrire sur l'adresse à monsieur de Machault à Arnouville, mesdames écrivent à monsieur le comte de Maurepas à Pontchartrain. L'honneur de l'écurie royale est sauvé, mais la monarchie est perdue. Avec Maurepas et Calonne, tout va à merveille. L'un chante, l'autre paie. Et puis, après les courtisans, il y a encore les fermiers généraux, qui font bien aussi leur office. Louis XIV commença son règne par faire pendre 2 fermiers généraux pour la vie de Colbert. Après quoi, il prend Lavallière pour maîtresse et fait bâtir Versailles. Lavallière ne lui coûtait rien. Mais Versailles, où il voulait la loger, lui coûtait cher. Et puis en 1685, sous prétexte qu'ils sont protestants, on chasse 1 million d'hommes industrieux de France. Aussi, en 1707, sous le grand roi encore, Boisguilbert dit-il en parlant de 1698, cela allait encore dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y avait encore de l'huile dans la lampe. Aujourd'hui, tout a pris fin, faute de matière. Que dira-t-on 80 ans après, mon Dieu, quand les Dubarry, les Polignac auront passé sur tout cela? Après avoir fait suer l'eau au peuple, on lui fera suer le sang. Voilà tout. Et tout cela avec des formes si charmantes. Autrefois, les traitants étaient durs, brutaux et froids, comme les portes des prisons dans lesquelles ils jetaient leurs victimes. Aujourd'hui, ce sont des philanthropes. D'une main, ils dépouillent le peuple, c'est vrai, mais de l'autre, ils bâtissent des hôpitaux. Un de mes amis, grand financier, m'a assuré que sur 120 millions que rapportait la gabelle, les traitants en gardaient 70 pour eux. Aussi, dans une réunion où l'on demandait les états de dépenses, un conseiller, jouant sur le mot, dit-il, ce ne sont pas les états particuliers qu'il faudrait, ce sont les états généraux. L'étincelle tomba sur la poudre s'enflamma et fit un incendie. Chacun répéta le mot du conseiller et les États généraux furent appelés à grands cris. La cour fixa l'ouverture des États généraux au 1er mai 1789. Le 24 août 1788, monsieur de Brienne se retira. C'en était encore un qui avait assez lestement mené les finances. Mais en se retirant, du moins, donna-t-il un assez bon avis, c'était de rappeler Necker. Necker rentra au ministère et l'on respira de confiance. Cependant, la grande question des trois ordres était débattue par toute la France. Sieyès publiait sa fameuse brochure sur le tiers. Le Dauphiné, dont les États se réunissaient malgré la cour, décidait que la représentation du tiers serait égale à celle de la noblesse et du clergé. On refit une assemblée de notables. Cette assemblée dura 32 jours, c'est-à-dire du 6 novembre au 8 décembre 1788. Cette fois, Dieu s'en mêlait. Quand le fouet des rois ne suffit pas, le fouet de Dieu siffle à son tour dans l'air et fait marcher les peuples. L'hiver vint accompagné de la famine. La faim et le froid ouvrirent les portes de l'année 1789. Paris fut rempli de troupes, les rues de patrouilles. Deux ou trois fois, les armes furent chargées devant la foule qui mourait de faim. Puis, les armes chargées, lorsqu'il fallut s'en servir, on ne s'en servit point. Un matin, le 26 avril, 5 jours avant l'ouverture des États généraux, un nom circule dans cette foule. Ce nom est accompagné de malédictions d'autant plus lourdes que ce nom est celui d'un ouvrier enrichi. Réveillons, à ce qu'on assure, réveillons, le directeur de la fameuse fabrique de papier du faubourg Saint-Antoine, réveillons a dit qu'il fallait abaisser à 15 sous les journées des ouvriers. Ceci, c'est la vérité. La cour, ajoutait-on, allait le décorer du cordon noir, c'est-à-dire de l'ordre de Saint-Michel. Ceci, c'était l'absurdité. Il y a toujours quelques bruits absurdes dans les émeutes, et il est remarquable que c'est surtout par ce bruit-là qu'elles se recrutent, qu'elles s'augmentent, qu'elles se font révolution. La foule fait un mannequin, le baptise Réveillon, le décor du cordon noir, vient l'allumer devant la porte de Réveillon lui-même et va achever de le brûler sur la place de l'Hôtel de Ville aux yeux des autorités municipales qui le regardent brûler. L'impunité enhardit la foule, qui prévient que le lendemain, après avoir fait justice de Réveillon en effigie, elle en ferait justice en réalité. C'était un cartel dans toutes les règles adressées au pouvoir. Le pouvoir envoya 30 gardes françaises. Encore, ce ne fut pas le pouvoir qui les envoya, ce fut le colonel Monsieur de Biron. Ces 30 gardes françaises furent les témoins de ce grand duel qu'elles ne pouvaient empêcher. Elles regardèrent piller la fabrique, jeter les meubles par la fenêtre, briser tout, brûler tout. Au milieu de cette bagarre, 500 louis en or furent volés. On but le vin des caves, et quand on n'eut plus de vin, on but les couleurs de la fabrique que l'on prenait pour du vin. Toute la journée du 27 fut occupée par cette vilenie. On envoya au secours des 30 hommes quelques compagnies de gardes françaises qui tirèrent d'abord à poudre, puis à balles. Aux gardes françaises vinrent se joindre vers le soir les Suisses de Monsieur de Bézenval. Les Suisses ne plaisantent pas en matière de révolution. Les Suisses oublièrent les balles dans leurs cartouches et, comme les Suisses sont naturellement chasseurs et bons chasseurs, une 20aine de pillards restèrent sur le carreau. Quelques-uns avaient sur eux leur part des 500 louis dont nous avons parlé et qui, du secrétaire de Réveillon, passèrent dans la poche des pillards et de la poche des pillards dans celle des Suisses. Bézenval avait tout fait, tout pris sous son chapeau, comme on dit. Le roi ne l'en remercia ni ne le blâma. Or, quand le roi ne remercie pas, le roi blâme. Le Parlement ouvrit une enquête, le roi la ferma. Le roi était si bon. Qui avait mis ainsi le feu au peuple? Personne ne put le dire. N'a-t-on pas vu, parfois, dans les grandes chaleurs de l'été, des incendies s'allumer sans cause? On accusa le duc d'Orléans. L'accusation était absurde. Elle tomba. Le 29, Paris était parfaitement tranquille, ou du moins paraissait l'être. Le 4 mai arriva, le roi et la reine se rendirent avec toute la cour à Notre-Dame pour entendre le « Veni Creator ». On cria beaucoup « Vive le roi !» et surtout « Vive la reine !» La reine était si bonne. Ce fut le dernier jour de paix. Le lendemain, on criait un peu moins « Vive la reine !» et on criait un peu plus « Vive le duc d'Orléans !» Ce cri la blessa fort, pauvre femme, elle qui détestait le duc au point de dire que c'était un lâche. Comme s'il y avait jamais eu un lâche dans les d'Orléans, depuis monsieur qui gagna la bataille de Cassel jusqu'au duc de Chartres qui contribua à gagner celle de Jemappes et de Valmy. tant il y a, disons-nous, que la pauvre femme faillit s'évanouir. On la soutint comme sa tête penchée. Madame Campan raconte la chose dans ses mémoires. Mais cette tête penchée se releva hautaine et dédaigneuse. Ceux qui virent l'expression de cette tête furent guéris à tout jamais de dire « La reine est si bonne ». Il existe trois portraits de la reine, l'un peint en 1776, l'autre en 1784 et l'autre en 1788. Je les ai vus tous trois, voyez-les à votre tour. Si jamais ces trois portraits sont réunis dans une seule galerie, on lira l'histoire de Marie-Antoinette dans ces trois portraits. Cette réunion des trois ordres qui devait être un embrassement fut une déclaration de guerre. « Trois ordres, » dit Sieyès, « non, trois nations !» Le 3 mai, la veille de la messe du Saint-Esprit, le roi reçut les députés à Versailles. Quelques-uns lui conseillent de substituer la cordialité à l'étiquette. Le roi ne voulut entendre à rien. Il reçut le clergé d'abord, la noblesse ensuite, enfin le tiers. Le tiers avait attendu longtemps. Le tiers murmura. Dans les anciennes assemblées, le tiers haranguait à genoux. Il n'avait pas moyen de faire agenouiller le président du tiers. On décida que le tiers ne prononcerait pas de harangue. À la séance du 5, le roi se couvrit. La noblesse se couvrit. Le tiers voulut se couvrir, mais le roi se découvrit alors. Alors il aima mieux tenir son chapeau à la main que de voir le tiers couvert devant lui. Le mercredi 10 juin, Sieyès entra dans l'assemblée. Il la vit presque entièrement composée du tiers. Le clergé et la noblesse s'assemblaient ailleurs. « Coupons le câble, » dit Sieyès, « il est temps. » Et Sieyès propose de sommer le clergé et la noblesse de comparaître dans une heure pour tout délai. Faute de comparution, il sera donné défaut contre les absents. Une armée allemande et suisse entourait Versailles. Une batterie de canons était braquée sur l'assemblée. Sieyès ne vit rien de tout cela, il vit le peuple qui avait faim. Mais le tiers, dit-on à Sieyès, ne peut former à lui seul les états généraux. Tant mieux, répondit Sieyès, il formera l'Assemblée nationale. Les absents ne se présentent point, la proposition de Sieyès est adoptée, le tiers s'appelle l'Assemblée nationale à la majorité de 400 voix. Le 19 juin, le roi ordonne que la salle où se réunit l'Assemblée nationale sera fermée. Mais le roi, pour accomplir un pareil coup d'État, a besoin d'un prétexte. La salle est fermée pour y faire les préparatifs d'une séance royale qui doit avoir lieu le lundi. Le 20 juin, à 7 heures du matin, le président de l'Assemblée nationale apprend qu'on ne se réunira pas ce jour-là. À 8 heures, il se rend à la porte de la salle avec grand nombre de députés. Les portes sont fermées et des sentinelles gardent les portes. La pluie tombe. On veut enfoncer les portes. Les sentinelles ont la consigne et croisent les baïonnettes. L'un propose de se réunir à la place d'armes, l'autre à Marly. Guillotin propose le jeu de paume. Guillotin. L'étrange chose que ce soit Guillotin, dont le nom, en ajoutant un « e » à ce nom, sera si célèbre 4 ans plus tard, quelle chose étrange que ce soit Guillotin qui propose le jeu de paume. Ce jeu de paume nu, délabré, ouvert aux 4 vents. C'est la crèche de la sœur du Christ, c'est le berceau de la Révolution. Seulement, le Christ était fils d'une femme vierge. La Révolution était fille d'une nation violée. À cette grande démonstration, le roi répond par le mot royal « veto ». Monsieur de Brézé est envoyé aux rebelles pour leur ordonner de se disperser. « Nous sommes ici par la volonté du peuple, » dit Mirabeau, « et nous n'en sortirons que la baïonnette dans le ventre. » Et non pas, comme on l'a dit, que par la force des baïonnettes. Pourquoi y a-t-il toujours derrière un grand homme un petit rhéteur qui gâte les mots sous prétexte de les arranger? Pourquoi ce rhéteur était-il derrière Mirabeau au jeu de paume, derrière Cambronne à Waterloo? On alla reporter la réponse au roi. Il se promena quelque temps, de l'air d'un homme ennuyé. « Ils ne veulent pas s'en aller, » dit-il. « Non, sire. » « Eh bien alors, qu'on les laisse. » Comme on le voit, la royauté pliait déjà sous la main du peuple et pliait bien bas. Du 23 juin au 12 juillet, tout sembla assez tranquille, mais tranquille de cette tranquillité sourde et étouffante qui précède l'orage. C'était le mauvais rêve d'un mauvais sommeil. Le 11, le roi prend un parti, poussé par la reine, le comte d'Artois, les Polignac, toute la camarilla de Versailles. Enfin, il renvoie Necker. Le 12, la nouvelle parvint à Paris. On a vu l'effet qu'elle avait produit. Le 13 au soir, Billot arrivait pour voir brûler les barrières. Le 13 au soir, Paris se défendait. Le 14 au matin, Paris était prêt à attaquer. Le 14 au matin, Billot criait « À la Bastille !» Et 3000 hommes, après Billot, répétaient le même cri qui allait devenir celui de toute la population parisienne. C'est qu'il existait un monument qui, depuis près de 5 siècles, pesait à la poitrine de la France comme le rocher infernal aux épaules de Sisyphe. Seulement, moins confiante que le titan dans ses forces, la France n'avait jamais essayé de le soulever. Ce monument, caché de la féodalité imprimée sur le front de Paris, c'était la Bastille. Le roi était trop bon, comme disait Madame du Houssay, pour faire couper une tête. Mais le roi mettait à la Bastille. Une fois qu'on était à la Bastille, par ordre du roi, un homme était oublié, séquestré, enterré, anéanti. Il est resté jusqu'à ce que le roi se souvînt de lui. Et les rois ont tant de choses nouvelles auxquelles il faut qu'ils pensent qu'ils oublient souvent de penser aux vieilles choses. D'ailleurs, il n'y avait pas en France une seule Bastille, il y avait 20 Bastilles, que l'on appelait le Fort-l'Évêque, Saint-Lazare, le Châtelet, la Conciergerie, Vincennes, le Château de la Roche, le Château d'If, les îles Sainte-Marguerite, Pignerol, etc. Seulement, la forteresse de la Porte-Saint-Antoine s'appelait la Bastille, comme Rome s'appelle la ville. C'était la Bastille par excellence, elle valait à elle seule toutes les autres. Pendant près d'un siècle, le gouvernement de la Bastille était demeuré dans une seule et même famille. L'aïeul de ses élus fut Monsieur de Châteauneuf. Son fils, Lavrière, lui succéda. Enfin, à son fils Lavrière succéda son petit-fils Saint-Florentin. La dynastie s'était éteinte en 1777. Pendant ce triple règne, qui s'écoula en grande partie sous le règne de Louis XV, nul ne peut dire la quantité de lettres de cachet qui furent signées. Saint-Florentin en signa à lui seul plus de 50 000. C'était un grand revenu que les lettres de cachet. On en vendait aux pères qui voulaient se débarrasser de leurs fils, on en vendait aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris. Plus les femmes étaient jolies, moins les lettres de cachet coûtaient cher. C'était alors entre elles et le ministre un échange de bons procédés, voilà tout. Depuis la fin du règne de Louis XIV, toutes les prisons d'État et surtout la Bastille étaient aux mains des jésuites. Les jésuites étaient confesseurs, ils confessaient les prisonniers pour plus grande sûreté. Pour plus grande sûreté encore, les prisonniers morts étaient enterrés sous de faux noms. On se rappelle les principaux parmi les prisonniers, le masque de fer, Lauzun, Latude. Le masque de fer, on se le rappelle, fut enterré sous le nom de Marchiali. Il était resté 45 ans en prison. Lauzun y resta 14 ans, Latude 30 ans. Mais au moins le masque de fer et Lauzun avaient commis de grands crimes. Le masque de fer, frère au nom de Louis XIV, ressemblait à Louis XIV de façon à s'y tromper. C'est bien imprudent que d'oser ressembler à un roi. Lauzun avait failli épouser, ou même avait épousé, la grande demoiselle. C'était bien imprudent d'oser épouser la nièce du roi Louis XIII, la petite fille du roi Henri IV. Mais Latude, pauvre diable, qu'avait-il fait? Il avait osé devenir amoureux de mademoiselle Poisson, dame de Pompadour, maîtresse du roi. Il lui avait écrit un billet. Ce billet, qu'une honnête femme eut renvoyé à celui qui l'avait écrit, et renvoyé par madame de Pompadour à monsieur de Sartine, et Latude, arrêté, fugitif, pris et repris, reste 30 ans sous les verrous de la Bastille, de Vincennes et de Bicêtre. Ce n'était donc pas pour rien que la Bastille était haïe. Le peuple la haïssait comme une chose vivante. Il en avait fait une de ces tarasques gigantesques, une de ces bêtes du Gévaudan qui dévorent impitoyablement les hommes. Aussi l'on comprend la douleur du pauvre Sébastien Gilbert lorsqu'il sut que son père était à la Bastille. Aussi l'on comprend cette conviction de Billot que le docteur ne sortirait plus de prison si l'on ne l'en tirait de force. Aussi l'on comprit l'élan frénétique du peuple lorsque Billot cria « À la Bastille !» Seulement, c'était une chose insensée, comme l'avaient dit les soldats, que cette idée que l'on pouvait prendre la Bastille. La Bastille avait des vivres, une garnison, de l'artillerie. La Bastille avait des murs de 15 pieds à son faîte, de 40 pieds à la base. La Bastille avait un gouverneur qu'on appelait Monsieur de Launay, qui avait fait mettre 30 milliers de poudre dans ses caves et qui avait promis, en cas de coup de main, de faire sauter la Bastille et avec elle la moitié du faubourg Saint-Antoine. Billot marchait toujours, mais ce n'était plus lui qui criait. La foule, éprise de son air martial, reconnaissant dans cet homme un des siens, commentant ses paroles et son action, le suivait toujours, grossissant comme le flot de la marée montante. Derrière Billot, lorsqu'il déboucha sur le quai Saint-Michel, il y avait plus de 3 000 hommes armés de coutelas, de haches, de piques et de fusils. Tout le monde criait « À la Bastille! À la Bastille !» Billot s'isola en lui-même. Les réflexions que nous avons faites à la fin du chapitre précédent, il les fit à son tour, et peu à peu, toute la vapeur de son exaltation fiévreuse tomba. Alors il vit clair dans son esprit. L'entreprise était sublime, mais insensée. C'était facile à comprendre d'après les physionomies effarées et ironiques sur lesquelles se reflétait l'impression de ce cri « À la Bastille !» Mais il n'en fut que mieux affermi dans sa résolution. Seulement il comprit qu'il répondait à des mères, à des femmes, à des enfants de la vie de tous ces hommes qui le suivaient, et il voulut prendre toutes les précautions possibles. Billot commença donc par conduire tout son monde sur la place de l'Hôtel de Ville. Là, il nomma un lieutenant et des officiers, des chiens, pour contenir le troupeau. « Voyons, pensa Billot, il y a un pouvoir en France, il y en a deux, il y en a même trois, consultons. » Il entra donc à l'Hôtel de Ville en demandant quel était le chef de la municipalité. On lui répondit que c'était le prévôt des marchands, monsieur de Flessel. « Ah ah !» fit-il d'un air peu satisfait, « Monsieur de Flessel, un noble, c'est-à-dire un ennemi du peuple. »« Mais non !» lui répondit-on, « un homme d'esprit !» Billot monta l'escalier de l'Hôtel de Ville. Dans l'antichambre, il rencontra un huissier. « Je veux parler à Monsieur de Flessel !» dit Billot, s'apercevant que l'huissier s'approchait de lui pour lui demander ce qu'il désirait. « Impossible !» répondit l'huissier. « Il s'occupe à compléter les cadres d'une milice bourgeoise que la ville organise en ce moment. Hein, « Cela tombe à merveille !» dit Billot. « Moi aussi, j'organise une milice, et comme j'ai déjà 3 000 hommes enrégimentés, je vaux Monsieur de Flessel, qui n'a pas un soldat sur pied. Faites-moi donc parler à Monsieur de Flessel, et cela à l'instant même. Oh, regardez par la fenêtre, si vous voulez !» L'huissier jetait en effet un coup d'œil rapide sur les quais, et il avait aperçu les hommes de Billot. Il se hâta donc d'aller prévenir le prévôt des marchands, auquel il montra, comme apostille à son message, les 3 000 hommes en question. Cela inspira au prévôt une sorte de respect pour celui qui voulait lui parler. Il sortit du conseil et vint dans l'antichambre, cherchant des yeux. Il aperçut Billot, le devina et sourit. « C'est vous qui me demandez » dit-il. « Vous êtes monsieur de Flessel, le prévôt des marchands ?» répliqua Billot. « Oui, monsieur, qu'y a-t-il pour votre service? Hâtez-vous seulement, car j'ai la tête fort occupée. »« Monsieur le prévôt, » demanda Billot, « combien y a-t-il de pouvoir en France ?»« Dame, c'est selon comme vous l'entendez, mon cher monsieur, » répondit Flessel. « Dites comme vous l'entendez vous-même. Si vous consultez monsieur Bailly, il vous dira qu'il n'y en a qu'un, l'Assemblée nationale. » Si vous consultez monsieur de Dreux-Brézé, il dira qu'il n'y en a qu'un, le roi. Et vous, monsieur le prévôt, entre ces deux opinions, quelle est la vôtre? Mon opinion à moi est aussi qu'en ce moment, surtout, il n'y en a qu'un. L'Assemblée ou le roi? Demanda Billot. Ni l'un ni l'autre, la nation, répondit Flessel en chiffonnant son jabot. Ah, la nation, fit le fermier. Oui, c'est-à-dire ces messieurs qui attendent en bas sur la place avec des couteaux et des broches, la nation, c'est-à-dire pour moi, tout le monde. Vous pourriez bien avoir raison, monsieur de Flesselles, répondit Billot. Ce n'est pas à tort que l'on me disait que vous étiez un homme d'esprit. De Flesselles s'inclina. Auquel de ces trois pouvoirs comptez-vous en appeler, monsieur? Demanda Flesselles. Ma foi, dit Billot, je crois que le plus simple, quand on a quelque chose à demander d'important, c'est de s'adresser au bon Dieu et non pas à ses saints. Ce qui veut dire que vous allez vous adresser au roi. J'en ai envie. Et serait-ce indiscret de savoir ce que vous comptez demander au roi? La liberté du docteur Gilbert, qui est à la Bastille. Le docteur Gilbert, demanda insolemment Flesselles, n'est-ce pas un faiseur de brochures? Dites un philosophe, monsieur. C'est tout un, cher monsieur Billot. Je crois que vous avez peu de chances d'obtenir une pareille chose du roi. Et pourquoi? D'abord parce que si le roi a fait mettre le docteur Gilbert à la Bastille, c'est qu'il a ses raisons pour cela. C'est bien, dit Billot. Il me donnera ses raisons et je lui donnerai les miennes. Mon cher monsieur Billot, le roi est fort occupé et ne vous recevra pas. Oh, s'il ne me reçoit pas, je trouverai un moyen d'entrer sans sa permission. Alors, une fois entré, vous rencontrerez monsieur de Dreux-Brézé qui vous fera jeter à la porte. Qui me fera jeter à la porte? Oui, il a bien voulu le faire pour l'assemblée en masse. Il est vrai qu'il n'a pas réussi, mais raison de plus qu'il rage et qu'il prenne sa revanche pour vous. C'est bien, alors je m'adresserai à l'assemblée. Le chemin de Versailles est coupé. J'irai avec mes 3 000 hommes. Prenez garde, mon cher monsieur, vous trouverez sur la route 4 ou 5 000 Suisses et 2 ou 3 000 Autrichiens qui ne feront qu'une bouchée de vous et de vos 3 000 hommes. En un clin d'œil, vous serez avalés. Ah, diable, que dois-je faire alors? Faites ce que vous voudrez, mais rendez-moi le service d'emmener vos 3 000 hommes qui battent le pavé avec leur hallebarde et qui fument. Il y a 7 ou 8 milliers de poudre dans nos caves et une étincelle peut tout faire sauter. En ce cas, je réfléchis, dit Billot, je ne m'adresserai ni au roi ni à l'Assemblée nationale, je m'adresserai à la nation et nous prendrons la Bastille. Et avec quoi? Avec les 8 milliers de poudre que vous allez me donner, monsieur le prévôt. Ah, vraiment, dit Flesselles d'un air goguenard. C'est comme cela. Monsieur, les clés de votre cas, s'il vous plaît. Plaisantez-vous, fit le prévôt. Non, monsieur, je ne plaisante pas, dit Billot. Et saisissant Flesselles des 2 mains au collet de son habit, les clés, dit-il, où j'appelle mes hommes. Flesselles devint pâle comme la mort. Ses lèvres et ses dents se serrèrent convulsivement, mais sans que sa voix subît la moindre altération, sans qu'il quittât le ton ironique qu'il avait pris. Au fait, monsieur, dit-il, vous me rendrez un grand service en me débarrassant de cette poudre. Je vais donc vous en faire remettre les clés, comme vous le désirez. Seulement, n'oubliez pas que je suis votre premier magistrat et que si vous aviez le malheur de me faire devant du monde ce que vous venez de me faire seul à seul, 1 heure après, vous seriez pendu par les gardes de la ville. Vous persistez à vouloir cette poudre? Je persiste, répondit Billot. Et vous la distribuerez vous-même? Moi-même? Quand cela? À l'instant. Pardon, entendons-nous. J'ai affaire ici pour un quart d'heure encore, et j'aime autant, si cela vous est indifférent, que la distribution ne commence que lorsque je serai parti. On m'a prédit que je mourrais de mort violente, mais j'ai une énorme répugnance à sauter en l'air, je l'avoue. Soit dans un quart d'heure, mais à mon tour une prière. Laquelle? Approchons-nous tous deux de cette fenêtre. À quel propos? Je veux vous rendre populaire. Grand merci. Et de quelle façon? Vous allez voir. Billot conduisit le prévôt à la fenêtre. Ami, dit-il, vous voulez toujours prendre la Bastille, n'est-ce pas? Oui, crièrent 3 ou 4 000 voix. Mais il vous manque de la poudre, n'est-ce pas? Oui, de la poudre, de la poudre. Eh bien, voici monsieur le prévôt des marchands, qui veut bien nous donner celle qui est dans la cave de l'hôtel de ville. Remerciez-le, mes amis. Vive monsieur le prévôt des marchands, vive monsieur de Flesselles, hurla toute la foule. Merci, merci pour moi, merci pour lui. Maintenant, monsieur, dit Billot, je n'ai plus besoin de vous prendre au collet, ni cela seul, ni devant tout le monde. Mais si vous ne me donnez pas la poudre, la nation, comme vous l'appelez, la nation, vous mettra en pièces. Voici les clés, monsieur, dit le prévôt. Vous avez une manière de demander qui n'admet pas les refus. En ce cas, vous m'encouragez, dit Billot, qui paraissait mûrir un nouveau projet. Ah, diable, auriez-vous encore quelque chose à me demander? Oui, connaissez-vous le gouverneur de la Bastille? Monsieur Delaunay? Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il s'appelle monsieur Delaunay. Soit, connaissez-vous monsieur Delaunay? C'est un de mes amis. En ce cas, vous devez désirer qu'il ne lui arrive pas malheur. Je le désire, en effet. Eh bien, un moyen qu'il ne lui arrive pas malheur, c'est qu'il me rende la Bastille, ou tout au moins le docteur. Vous n'espérez pas que j'aurai l'influence de l'amener à vous rendre ou son prisonnier ou sa forteresse, n'est-ce pas? Cela me regarde. Je ne vous demande qu'une introduction auprès de lui. Mon cher monsieur Billot, je vous préviens que si vous entrez à la Bastille, vous y entrerez seul. Très bien. Je vous préviens en outre qu'en y entrant seul, vous n'en sortirez peut-être pas. À merveille. Je vais vous donner votre laissez-passer pour la Bastille. J'attends, mais à une condition encore. Laquelle? C'est que vous ne viendrez pas me demander demain un laissez-passer pour la Lune. Je vous préviens que je ne connais personne dans ce monde-là. Flesselles, Flesselles, dit une voix sourde et grondante derrière le prévôt des marchands, si tu continues à avoir deux visages, un qui rit aux aristocrates et l'autre qui sourit au peuple, tu te feras peut-être d'ici à demain signer à toi-même un laissez-passer pour un monde dont nul ne revient. Le prévôt se retourna frissonnant. Qui parle ainsi, dit-il? Moi, Marat. Marat le philosophe? « Marat le médecin ?» dit Billot. « Oui, » répondit la même voix. « Oui, Marat le philosophe, Marat le médecin, » dit Flesselles, lequel, en cette dernière qualité, devrait bien se charger de guérir les fous, ce qui serait pour lui un moyen d'avoir aujourd'hui bon nombre de pratiques. « Monsieur de Flesselles, » répondit le funèbre interlocuteur, « ce brave citoyen vous demande un laissez-passer pour monsieur Delaunay. Je vous ferai observer que non seulement il vous attend, mais encore que 3 000 hommes l'attendent. « C'est bien, monsieur, il va l'avoir. » Flesselles s'approcha d'une table, passa une main sur son front, et de l'autre, saisissant la plume, il écrivit rapidement quelques lignes. « Voici votre laissez-passer, » dit-il, en présentant le papier à Billot. « Lisez, » dit Marat. « Je ne sais pas lire, » dit Billot. « Eh bien, donnez, je le lirai, moi. » Billot passa le papier à Marat. « Monsieur le gouverneur, nous, prévôt des marchands de la ville de Paris, nous vous envoyons monsieur Billot à l'effet de se concerter avec vous sur les intérêts de ladite ville. 14 juillet 1789, de Flesselles. »« Bon, » dit Billot, « donnez. » Vous trouvez ce laissez-passer bon ainsi, dit Marat, sans doute. Attendez, monsieur le prévôt va y ajouter un post-scriptum qui le rendra meilleur. Et il s'approcha de Flesselles qui était resté debout, le poing appuyé sur la table, et qui regardait d'un air dédaigneux et les deux hommes auxquels il avait particulièrement affaire, et un troisième, à moitié nu, qui venait d'apparaître debout à la porte, appuyé sur un mousqueton. Ce troisième, c'était Pitou, qui avait suivi Billot, et qui se tenait prêt à obéir aux ordres du fermier, quels qu'ils fussent. « Monsieur, » dit Marat à Flesselles, « ce post-scriptum que vous allez ajouter, et qui rendra le laissez-passer meilleur, le voici. » Dites, monsieur Marat. Marat posa le papier sur la table et indiquant du doigt la place où le prévôt devait tracer le post-scriptum demandé. Le citoyen Billot, dit-il, ayant caractère de parlementaire, je remets sa vie à votre honneur. Flesselles regarda Marat en homme qui avait meilleure envie d'écraser cette plate figure d'un coup de poing que de faire ce qu'elle demandait. Hésiteriez-vous, monsieur? Demanda Marat. Non, Flessel, car au bout du compte, vous ne demandez qu'une chose juste. Et il écrivit le post-scriptum demandé. Cependant, messieurs, dit-il, notez bien ceci, c'est que je ne réponds pas de la sûreté de monsieur Billot. Et moi j'en réponds, dit Marat, en lui tirant le papier des mains, car votre liberté est là pour garantir sa liberté, votre tête pour garantir sa tête. Tenez, brave Billot, dit Marat, voici votre laissez-passer. L'abri, cria monsieur de Fessel, l'abri. Un laquais en grande livrée entra. « Mon carrosse, dit-il. Il attend monsieur le prévôt dans la cour. »« Descendons, dit le prévôt. Vous ne désirez rien d'autre chose, messieurs ?»« Non, répondirent à la fois Billot et Marat. »« Faut-il laisser passer ?» demanda Pitou. « Mon ami, dit Flessel, je vous ferai observer que vous êtes un peu trop indécemment vêtu pour monter la garde à la porte de ma chambre. Si vous tenez à y rester, mettez au moins votre giberne par-devant et appuyez-vous le derrière à cette muraille. « Faut-il laisser passer ?» répéta Pitou en regardant monsieur de Flessel d'un air qui indiquait qu'il goûtait médiocrement la plaisanterie dont il venait d'être l'objet. « Oui, dit Billot. » Et Pitou se rangea. « Peut-être avez-vous tort de laisser aller cet homme, dit Marat. C'était un excellent otage à conserver, mais en tout cas, quelque part qu'il soit, soyez tranquille, je le retrouverai. « L'abri, dit le prévôt des marchands en montant dans son carrosse, on va distribuer de la poudre ici. Si l'hôtel de ville sautait par hasard, je ne veux point d'éclaboussure. Hors de portée, l'abri, hors de portée. » La voiture roula sous la voûte et apparut sur la place où grondaient 4 ou 5 000 personnes. Flessel craignait qu'on interprétât mal son départ, qui pouvait tout aussi bien être une fuite. Il sortit à demi-corps par la portière. « À l'Assemblée nationale » cria-t-il au cocher, ce qui lui valut, de la part de la foule, une salve colossale d'applaudissements. Marat et Billot étaient sur le balcon et avaient entendu les derniers mots de Flessel. « Ma tête contre la sienne, dit Marat, qu'il ne va pas à l'Assemblée nationale, mais chez le roi. Faut-il le faire arrêter, dit Billot ? Non, dit Marat, avec son hideux sourire. Soyez tranquille. Si vite qu'il aille, nous irons encore plus vite que lui. Et maintenant, aux poudres. Oui, aux poudres, dit Billot. » Et tous deux descendirent, suivis par Pitou.